Éthique, 9 avril 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation.
Est-ce que la vertu d'obéissance ne nous introduit pas dans un espace nouveau, celui de la révélation, où Dieu se manifesterait dans ses préceptes comme Moïse sur le mont Sinaï? Le décalogue n'est-il pas de fait le prototype de toute morale religieuse authentique? Grave problème. Je crois qu'on peut dire, que le décalogue est bien le prototype de toute morale religieuse authentique. Je crois. Ça ne va pas plus loin, vous voyez. C'est pas une morale qui implique la foi. De fait, elle l'implique, mais le contenu du décalogue peut se justifier entièrement au point de vue philosophique. Donc c'est une morale religieuse. Parce que c'est, vous comprenez bien la question, il faut essayer de comprendre avec intelligence. Quand on vous pose cette question, ce sont des questions qui se posent, c'est pour ça que c'est des questions auxquelles je crois qu'il faut répondre, ce sont des questions qui se posent. Le décalogue, implique-t-il la foi ou n'implique-t-il pas la foi? Est-ce que je peux, vis-à-vis de quelqu'un qui ne croit pas, dire le décalogue reste la norme, le prototype de toute morale religieuse? Moïse est un croyant. Moïse présuppose Abraham, présuppose Isaac, présuppose Jacob. Moïse est un croyant. Mais est-ce que dans le décalogue, le point de vue de la foi est-il impliqué explicitement? Il est impliqué dans le sens de l'origine. Le décalogue est reçu par Dieu. Question très délicate chez les exégètes d'aujourd'hui, on le sait très bien, mais c'est justement parce que le décalogue pourrait s'expliquer sans l'intervention de Dieu. Et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pas la peine de faire appel à une révélation pour expliquer le décalogue. Je peux très bien l'expliquer uniquement dans son contenu, vous voyez, dans son contenu formel. C'est pour ça que certains exégètes aujourd'hui se disent, mais vous voyez, il y a une orchestration du mont Sinaï, tu vois. Il y a une orchestration qui est très bien faite, du reste, qui est merveilleuse. Il y a des orages et qui permettent de montrer la toute-puissance de Dieu. Et donc, il y a une orchestration, mais le contenu même du décalogue pourrait s'expliquer sans cette orchestration. Alors, je crois que là, il faut toujours bien comprendre. De fait, Moïse est un croyant. De fait, Moïse a obéi à Dieu en montant sur le mont Sinaï. De fait, Moïse a contemplé la face de Dieu sur le mont Sinaï, comme un ami contemple son ami. À tel point que certains pères de l'Église prétendaient que Moïse avait eu la vision béatifique. Aujourd'hui, on l'affirme moins. Il vaut mieux s'appuyer sur les pères de l'Église quand on le dit. Donc, mais les pères de l'Église affirmaient. Et saint Thomas le dit encore. Saint Thomas le dit encore. Étant donné le rôle important que Moïse doit jouer. Donc il a eu la vision béatifique per modum transiuntis, selon un mode passager. Normalement, quand on a la vision béatifique, on est stabilisé pendant toute l'éternité. Mais Moïse l'a eu per modum transeuntis, selon un mode passager, pour la fonction qu'il devait jouer. Une fonction primordiale, c'est bien évident. C'est la loi qui constitue le peuple de Dieu, comme un peuple religieux. Donc, Moïse est un ami de Dieu, il a contemplé et il a reçu l'étape de la loi. L'étape de la loi, si je prends le texte un peu naïvement, n'est-ce pas ? L'étape de la loi, ça vient de Dieu. Il y a le doigt de Dieu. C'est pas Moïse qui, du haut de la montagne, a bien pensé, il y a des philosophes pendant un certain temps, qu'est-ce que je vais leur donner comme législation ? Alors, premier commandement, c'est bien évident, hein ? Point de vue de l'adoration, c'est sûr, tout doit reposer là-dessus. Puis alors ensuite, la famille, la place de la famille, c'est important. Alors vous voyez bien, l'adoration, la famille, puis le respect à l'égard des autres, c'est évident, la justice. Alors on voit très très bien Moïse faisant ce point de vue-là, avec un petit burin, n'est-ce pas, et travaillant pour que ce soit bien inscrit. Alors le texte de l'Écriture ne dit pas ça du tout, il dit que c'est le doigt de Dieu. Causalité efficiente. Le doigt de Dieu. Si c'est le doigt de Dieu, c'est la pensée de Dieu, mais une pensée que Moïse aurait pu avoir. Moïse est un législateur. Moïse est intelligent. Il a une prudence politique remarquable. Ça, c'est sûr. Il a été bien élevé. Tout s'explique par sa éducation parfaite, hein. Cette éducation extraordinaire qu'il a eue auprès du pharaon, il a été élevé comme un fils du pharaon. Et donc c'est normal qu'il ait cette législation qui vient de l'Égypte et qu'il donne au peuple d'Israël pour faire du peuple d'Israël, qui est un petit peuple de rien du tout, pas grand chose, un grand peuple. À partir de là, il est l'analogue au peuple d'Égypte, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et on peut très bien expliquer ça humainement. Je crois qu'il faut expliquer qu'il y a eu une intervention de Dieu. Mais je peux aussi regarder que le contenu du décalogue peut s'expliquer uniquement au point de vue philosophie religieuse. Et donc c'est le prototype de toute morale religieuse authentique. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que vous pouvez montrer le décalogue à des gens même qui n'ont pas la foi. Et le décalogue peut continuer de servir même à des gens qui n'ont plus la foi, mais qui sont intelligents. Et qui réfléchissent sur les dimensions de l'homme. Parce que affirmer que l'homme est religieux, et que c'est fondamental pour l'homme d'être religieux, c'est pas la peine de faire appel à la croyance, à la foi. C'est pas la peine de faire appel à la révélation. L'homme peut par lui-même découvrir cela. C'est très difficile, ordinairement c'est grâce aux traditions religieuses qui peuvent impliquer certaines inspirations divines, certaines révélations, mais le contenu peut s'expliquer au point de vue purement philosophique. Donc comprenons bien ça. Alors je reprends la première affirmation. Est-ce que la vertu d'obéissance ne nous introduit pas dans un espace nouveau, celui de la révélation, où Dieu se manifesterait dans ses préceptes comme à Moïse sur le mont Sinaï? Il est sûr que tout le décalogue est enveloppé de l'exigence de l'obéissance. Et la manière dont Dieu le transmet, il le transmet à travers l'obéissance, une obéissance à l'égard de Dieu. Cette obéissance à l'égard de Dieu implique la révélation. Alors, vous voyez, faisons bien la distinction entre les deux. Parce que ça va nous introduire directement dans ce problème que nous allons essayer de continuer de voir. C'est d'essayer toujours d'établir ce que peut représenter une éthique religieuse. N'oubliez jamais, je le rappelle pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous avons vu qu'une éthique... une éthique humaine. Dans une éthique humaine, nous dirions aujourd'hui une éthique laïque. Mais je n'aime pas. Alors je dis une éthique humaine, tout simplement. J'aime mieux ça. Dites à Marché qu'il faut une éthique humaine et qu'il ne faut pas une éthique laïque. Il faut une éthique humaine. Une éthique humaine reste ouverte. Une éthique laïque s'oppose. C'est pour ça qu'on n'a pas accepté une éthique laïque. On doit accepter une éthique humaine. Une éthique humaine, je comprends très bien que certains ne comprennent que les relations de l'homme à l'homme. Cette éthique humaine repose sur les relations de la personne humaine à l'égard de la personne humaine, dans l'ordre de l'amour de Dieu. Cette éthique humaine se noue autour de l'amour d'amitié, mais elle n'est pas fermée. Elle ne s'oppose à rien, à aucune autre éthique. Donc, elle est fondamentale. Tandis que quand vous dites éthique laïque, vous opposez. Ça, c'est sûr. Il y a une petite opposition assez farouche derrière. Vous avez ensuite l'éthique religieuse. Nous sommes en train de voir. Puis nous verrons ensuite l'éthique chrétienne. Et vous comprenez que derrière tout ça, il y a quelque chose de très important pour nous à saisir, c'est que la philosophie n'est chrétienne que dans l'éthique. C'est pour ça que c'est intéressant. Quand Gilson parle d'une philosophie chrétienne, en réalité, il devrait dire une éthique chrétienne. Parce qu'il existe une éthique chrétienne. Alors ça, c'est ça qui est intéressant. C'est très important de voir le lien entre le point de vue de l'intelligence et le point de vue de la foi, qui prend un caractère très particulier au niveau de l'éthique. L'éthique chrétienne n'est pas la théologie morale de saint Thomas. C'est deux choses différentes. On peut dire éthique chrétienne égale la théologie morale. La théologie morale de saint Thomas, Thomas, secunda, 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 sans théologie de saint Thomas. Eh bien, non, non. L'éthique chrétienne n'est pas la théologie morale. C'est très délicat. Nous essaierons de le voir. C'est très délicat de bien préciser les deux. Mais je crois qu'il faut maintenir la distinction. Alors, nous restons ici au niveau philosophique. C'est la philosophie, l'éthique humaine, l'éthique religieuse, l'éthique chrétienne. Donc, on reste au niveau philosophique. Je peux très bien, si je suis intelligent, un philosophe doit l'être. Si je suis intelligent, je dois m'ouvrir, même à la révélation. Mais pas m'ouvrir au niveau de la foi, mais m'ouvrir parce que la révélation me dit des choses extraordinaires sur l'homme. Alors on a l'éthique chrétienne. Et alors là, vous voyez bien comment le point de vue chrétien vient modifier la philosophie. Il y a un phénomène historique qui fait que je peux parler d'une culture chrétienne. Je peux parler d'un art chrétien et je peux parler d'une éthique chrétienne. Et tout être intelligent doit me comprendre. C'est important de dire ça. Parce que quand on vit dans un monde où la foi n'est plus première, quand on vit dans un monde de chrétienté, alors la théologie morale suffit. Mais s'il parlait de théologie morale à quelqu'un qui est simplement philosophe, il tourne le dos. Tandis que si vous essayez de comprendre vraiment ce que c'est qu'une éthique chrétienne, alors à ce moment-là, il ne tournera pas le dos. Il écoutera. Il dira, c'est vrai, c'est intéressant. Parce que cette éthique se fonde, vous comprenez bien, sur une anthropologie. Une anthropologie philosophique. Et cette anthropologie philosophique reste ouverte. Elle n'est pas fermée, il n'y a pas de raison qu'elle soit fermée. Alors, cette éthique humaine fonde l'éthique religieuse, et l'éthique humaine et l'éthique religieuse fondent l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne représente un sommet. Nous verrons bien l'éthique chrétienne. Alors, le problème qui se pose maintenant, nous avons vu que ce qui caractérise l'éthique religieuse, c'est la recherche de la vertu de religion. Ou plus exactement, comprenons bien, c'est pas juste ce que je dis là, ce qui caractérise l'éthique religieuse, c'est l'adoration. Il y a une opération humaine particulière qui est l'adoration. Tout être intelligent doit adorer. Et c'est un manque d'intelligence s'il n'adore pas. Et il faut avoir l'audace de le dire. Je vous respecte, vous êtes intelligent, mais vous avez des ornières. Vous êtes beaucoup plus dépendant, vous voyez, des autres à cause de ces ornières. Dans le climat d'aujourd'hui, quand vous diriez ça à certaines personnes, c'est ne pas adorer, c'est un manque d'intelligence. Les trois quarts des personnes, on va dire 80 sur 100, tourneraient le dos en disant « Vous êtes un imbécile. Oh, vous êtes du Moyen-Âge. » Non, pas du tout. C'est tout simplement l'homme. L'homme dans ses dimensions profondes, parce que c'est un être spirituel et capable de remonter jusqu'à sa source. Si vous en êtes incapable, très bien, mais vous en êtes incapable. Je ne vous demande pas d'être d'une intelligence qui puisse aller jusqu'au bout. Mais ne dites pas que c'est impossible. L'intelligence humaine est capable de remonter à la source. Une fois que l'intelligence remonte à sa source, elle découvre le Créateur. Et dès qu'elle découvre le Créateur, uniquement par son effort philosophique, quand elle découvre le Créateur, elle découvre cette dépendance radicale au plus intime de nous-mêmes, au plus intime de notre esprit, à l'égard du Dieu Créateur, à l'égard du Tout-Puissant Créateur, qui est source de ma vie, de mon être, de mon intelligence. Et je reconnais cette dépendance et je l'aime. Aimer cette dépendance et la reconnaître, c'est l'adoration. Donc, dès que je considère l'homme dans sa relation à l'égard du Créateur, je vois qu'il y a l'éclosion d'un nouveau type d'activité humaine volontaire, qui est l'adoration. L'adoration, c'est une activité religieuse. Et en étudiant ce qu'est l'adoration, nous l'avons fait, hein, je vous réactue un peu, parce que c'est déjà un petit moment, et puis c'est bon de réactuer ça, c'est toujours très très bon, c'est toujours quelque chose de grand. Alors, une fois que vous comprenez que cette dépendance volontaire admise librement. Je vous ai dit, il y a un premier amour naturel qui fait que la partie se porte sur le tout, comme dit saint Thomas. Et cet amour naturel, c'est un amour vers Dieu, vers le Créateur. Il y a un amour naturel vers le Créateur. Et quand je prends conscience de cet amour naturel vers le Créateur, qui s'impose, c'est un amour naturel. Quand je prends conscience de cet amour naturel, je peux l'accepter ou le refuser. Si j'accepte, s'ouvre devant moi cet aspect nouveau d'un épanouissement de l'homme religieux, qui est un homme qui adore, qui reconnaît sa dépendance à l'égard du Créateur. L'adoration unit le Créateur et la créature. Et me met dans cet état affectif, volontaire, libre, de dépendance aimée. L'adoration, nous l'avons vu, comme c'est pas si commode que ça, surtout quand on vit dans un milieu d'idéologie athée, l'adoration risque toujours d'être enfouie par le domaine de l'imaginaire. D'où la nécessité d'acquérir la vertu religieuse. Souvenez bien, nous avons toujours vu comment apparaît une vertu. Une vertu nécessaire, la vertu c'est un habitus qui vient s'ajouter à la puissance, eh bien il faut que notre volonté, parce que la vertu de religion est dans la volonté, il faut que notre volonté, notre cœur profond, soit ennobli par la vertu de religion pour que l'adoration puisse se faire, j'ai dit, facilement. Pour qu'on n'oublie pas. Si vous oubliez d'adorer, c'est pour que la vertu de religion n'est pas encore très très forte en vous. Le jour où vous aurez acquis la vertu de religion, donc où vous serez vraiment un homme religieux. Mais c'est extraordinaire dans le langage. Un homme religieux, on pense tout de suite à un moine. C'est assez affolant, quoi. Philosophiquement parlant, un homme religieux, c'est un homme parfait. Un homme qui n'est pas religieux, il n'est pas un homme parfait. Il est amputé. Il manque quelque chose. Oui. Alors aujourd'hui, dans l'Arche de Noé, vous voyez, les hommes parfaits sont uniquement dans les monastères. C'est là où les maires, les parcs, pour garder l'espèce intégrale, de façon intégrale. Alors pour garder l'aspect religieux, ça devient une spécialisation. On est des spécialistes religieux. Je me souviens très bien, on me dit comme ça. Ah, vous qui êtes religieux, vous êtes donc un homme spécialiste de la vertu de religion. Alors, la vertu de religion n'est pas une spécialité. La vertu de religion est une vertu fondamentale de l'homme. Mais c'est intéressant de voir le langage, parce que ça reflète quelque chose, quoi. Ça montre quelque chose. Je ne sais pas si en espagnol il y aurait le même phénomène, quoi. Parce que la race espagnole peut être gardée un peu plus profondément l'aspect religieux. Ce serait intéressant de voir si dans les pays on a les mêmes réactions. En France, il y a la laïcisation qui a fait beaucoup, ça. L'aspect laïque, qui s'est opposé à l'aspect religieux. Et ça s'introduit quelquefois jusque dans la théologie. Ça s'introduit quelquefois jusque dans la théologie. On considère religieux. Ah, c'est une espèce particulière. Mais non, tout homme doit être religieux. Ça, c'est sûr aussi. Il doit adorer. Il doit donc acquérir la vertu de religion. La vertu de religion est une vertu fondamentale. C'est une vertu, vous voyez, il y a deux vertus fondamentales au point de vue éthique. Il y a la prudence et la vertu de religion. La vertu de religion a quelque chose d'universel, plus universel que la justice. La justice aussi est assez universelle dans les relations vis-à-vis des hommes. Mais la vertu de religion est plus, puisqu'elle est la relation de la partie à l'égard du tout. Donc elle a quelque chose de très très fondamental. Et elle rectifie fondamentalement mon appétit. Mon appétit, ma soif d'aimer. Elle rectifie fondamentalement ce que je dois être. C'est pour ça que la vertu de religion et l'acte d'adoration va me mettre dans la vérité. Une vérité très radicale, la vérité de la partie à l'égard du tout. Or, s'il n'y a pas la vérité de la partie à l'égard du tout, toutes les autres vérités sont bancales. Vous voyez, ça va très loin, ça, vous savez, parce que si vous comprenez, c'est ce qu'on verra au terme, si vous comprenez que les vertus sont connexes, si vous supprimez délibérément et volontairement la vertu de religion, vous mettez toutes les vertus dans un état de non-vertu. C'est-à-dire dans un état radicalement d'imperfection. Puisque vous mutilez l'homme. Quand on mutile l'homme, il y a une réaction sur tout ce qu'il est. Et ça, il faut le saisir, il faut saisir ça. Les vertus sont connexes. Donc, nécessairement, je ne peux pas être spécialiste d'une vertu. Je ne peux pas dire, moi je me spécialise dans la prudence, la tempérance. Notre voisin, il dira, moi je me spécialise dans la tempérance. J'aime beaucoup de jeûner. Ça me va très bien. Je me sens beaucoup mieux quand j'ai pris un repas léger, quand j'ai pris un repas un peu trop abondant. Alors je dors, ça ne va pas du tout. Tandis que quand j'ai pris un repas léger, oh, c'est merveilleux. Peser poids plume, c'est merveilleux. C'est bien mieux. Donc je suis tempérant. Par nature, je suis spécialiste de la tempérance. La prudence au sens différent, c'est tellement ennuyeux d'être prudent. C'est tellement ennuyeux. C'est pas drôle du tout d'être prudent. J'aime mieux le risque. Et je suis tempérant. Il y a des sportifs qui sont merveilleux comme tempérance. Je me souviens la réaction d'une danseuse entrant au Carmel en disant « Mais c'est rien du tout le jeûne au Carmel, comparativement à ce qu'on a fait jeûner pour danser. » C'est évident. Un danseur ou une danseuse, ça doit peser poids plume. C'est impossible. Autrement, il doit y avoir des ailes qui poussent. Alors, si c'est trop lourd, vous venez, ça ne va pas. Alors, elle disait sa réaction spontanée. Mais on m'avait dit que le Carmel était dur. Mais c'est rien du tout. Ah, je dis, oui, mais le Carmel, c'est la vertu de tempérance. Vous, c'était en fonction de votre art. Ce n'était pas une vertu. Là, il y a de grands yeux. Expliquez-moi un tout petit peu. Parce que c'est, il peut y avoir une espèce d'habileté au niveau sportif qui n'est pas la vertu de tempérance. Il peut y avoir une habileté au niveau proprement art de la danse qui n'est pas la vertu de tempérance. La vertu de tempérance est alliée à la vertu de prudence. Elle est liée en connexion avec la vertu de justice. Tandis que celui qui devient le stylite, une ascèse poussée extraordinaire, pour être le plus maigre de tous les hommes, on peut mettre quand même son idéal là-dedans. Ça peut exister. Le plus maigre, on montrera ensuite en vitrine, n'est-ce pas ? Et on montrera qu'il est le plus maigre de tous les hommes, étant donné sa taille, ce qu'il pèse, exactement, une maigreur extraordinaire. Pour ça, il a fallu quelquefois des biceps. Pour arriver à ça, arriver à cette maigreur étonnante, la maigreur du peuplier. Peut-être cheveux au bout de la tête. Et encore, on les coupe. Mais ça ne pèse pas trop lourd. Donc, c'est le peuplier svelte, très svelte. Ce n'est pas la vertu de tempérance. C'est une vertu ordonnée au facere. Donc, ordonnée à une œuvre. Tandis que la vertu de tempérance n'est pas ordonnée à une œuvre. La vertu de tempérance est ordonnée à l'activité morale. À un acte moral qui soit conforme à ma finalité, pour que j'aime plus. Si je suis tempérant, c'est pour aimer plus. C'est pas pour moins peser. C'est pour que j'aime plus. Celui qui ne mange plus pour peser moins, c'est pas vertueux. C'est sportif. Mais c'est pas vertueux. La vertu, c'est pour aimer plus. Si je suis juste, c'est pour aimer plus. C'est pour respecter la personne de l'autre. Alors, vous comprenez, ça, c'est la perspective des vertus qui ont cette connexion. Les vertus sont connexes. Donc, je ne peux pas acquérir une vertu sans que toutes les autres vertus soient à l'état embryonnaire. Donc, si délibérément, je peux oublier la vertu de religion, oui, si j'oublie la vertu de religion, si j'oublie l'adoration en fonction du milieu dans lequel je suis, ça peut arriver. J'oublie. Les autres vertus que j'acquiers me donneront à l'état embryonnaire, très très embryonnaire, la vertu de religion. Il y a une connexion. Mais si délibérément je refuse la vertu de religion en vertu d'une idéologie athée, je dis, moi, religieux, non. Parce que c'est justement une amputation, une aliénation. Alors à ce moment-là, délibérément, je refuse la vertu de religion. Je refuse l'adoration. Eh bien, celui qui volontairement refuse la vertu de religion ne peut pas acquérir d'autres vertus.
C'est extraordinaire, ça.
Un athée comme tel, il peut avoir des dispositions, il n'a pas de vertu. Il a des dispositions, il a des générosités extraordinaires. Les gens de parti, c'est ça. Un jour, on entendait, paraît-il, affirmer avec force certains hommes politiques en disant « Nous voulons que la vérité, tout le monde savait très bien qu'il y avait le mensonge derrière. » Quand il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? La vérité, c'est la sincérité. C'est pas la vertu. Non. C'est très important de comprendre, parce qu'il y a un langage, vous voyez, un langage qui cache certaines choses qui font qu'au niveau idéologie, quand il s'agit d'une idéologie athée, il ne peut plus y avoir de vertu. Il peut y avoir des dispositions de générosité, de justice, de prudence, oui, des dispositions, mais plus de vertu. Parce qu'il n'y a plus de connexion. Il y a un refus de la vertu. Je n'ai pas le droit de refuser une seule vertu. Parce qu'elles sont connexes. C'est la différence avec l'art. L'art, je peux très bien dire je n'y comprends rien du tout dans tel art. Et je me développe dans tel autre. C'est impossible. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de vertu, il y a une connexion. Et donc, je comprends que la vertu de religion qui regarde la partie à l'égard du tout, c'est plus la personne humaine à l'égard de la personne humaine, c'est la personne qui accepte d'être partie à l'égard du tout. C'est-à-dire la personne infinie. C'est la personne finie qui est relative à la personne infinie. C'est ça la vertu de religion. C'est ce lien entre la personne finie, créée, donc limitée en tant que créée, qui se met en relation d'amour, en relation de dépendance, à l'égard de la personne infinie, qui est le créateur. Et je me relie à lui. Donc, c'est quelque chose de très fondamental en nous. Parce que c'est quelque chose de très fondamental en nous, on comprend très bien que le refus de l'adoration et de la vertu de religion vont déséquilibrer toute la personne. C'est important de saisir ça. La vertu harmonise toutes les parties qui sont en nous. Donc il faut que la base, le fondement, soit fort, soit ce qu'il doit être. Autrement, ça ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, vous voyez, il faut réfléchir à ça. Hein. Bon, alors le problème qui va se poser maintenant, à partir de cette vertu d'adoration, quelles sont les vertus propres de l'éthique religieuse? Je crois que la dernière fois, je vous avais dit l'obéissance. Hein. L'obéissance est sûrement une des vertus qui va apparaître d'une façon particulière en éthique religieuse. Remarquez qu'elle est déjà en éthique humaine. Hein. L'éthique humaine qui se prolonge en politique implique la vertu d'obéissance. Et je ne parle pas de politique maintenant, je ne parle que de l'éthique. Je parlerai après de la politique. Je ne parle que de l'éthique. Donc, c'est sûr que l'obéissance peut déjà exister d'une certaine manière en éthique humaine. Je dis d'une certaine manière. Parce que dans l'amitié, il peut y avoir une certaine obéissance. Une certaine obéissance. Deux, on veut coopérer ensemble et qu'on dit, mais oui, pour ça, tu es beaucoup plus capable que moi, je t'obéis. C'est pas déshonorant du tout de dire un ami, je t'obéis. Je sais que dans ce domaine-là, tu es bien plus compétent que moi. Je le reconnais. Dans d'autres domaines, je sais que je suis plus compétent que toi, alors là, tu obéis. On verra bien. Mais hein, c'est donnant-donnant. Vous voyez, c'est une espèce d'obéissance qui change en reconnaissant l'autorité de quelqu'un sur lui. Et c'est d'être intelligent de reconnaître l'autorité de quelqu'un sur nous. C'est un signe d'intelligence de reconnaître l'autorité. Refuser l'autorité, c'est un signe de manque d'intelligence. Parce que c'est un signe d'orgueil. C'est vrai, l'orgueilleux, c'est celui qui refuse que n'importe quel autre soit plus intelligent que lui. Donc c'est toujours, au fond, à base de bêtises. Parce que vous êtes bien obligé de reconnaître qu'il y a quand même quelqu'un dans le monde entier qui est un peu plus intelligent que vous, dans tel ou tel domaine, dans tous les domaines, dans tel ou tel domaine, qui est plus intelligent que vous, qui a quelque chose de plus que vous. Alors, s'il est plus intelligent que vous, il est normal que dans le domaine où il peut vous aider, coopérer avec vous, vous coopériez et vous utilisez. Bon, la coopération qui existe déjà au niveau de l'amour d'amitié va impliquer une certaine obéissance. Mais c'est, je crois, qu'on peut dire que c'est vraiment dans l'éthique religieuse qu'apparaît vraiment la vertu d'obéissance. Il y a l'obéissance. On va les énumérer, hein, puis on les étudiera après. Qu'est-ce qu'il y a comme autre vertu? Moi, je mettrais l'humilité. C'est encore plus caractéristique. L'humilité. L'obéissance, l'humilité. Ce sont des vertus qui apparaissent au niveau éthique religieuse. Est-ce que vous en voyez d'autres? Qu'est-ce que vous voyez comme vertu caractéristique de l'éthique religieuse? Je mets l'obéissance, l'humilité. Parmi les vertus, quoi, que vous pratiquez d'une façon remarquable, vous devez connaître ça, vous devez avoir cette connaturalité qu'on va te dire, oh, oui, c'est vrai, avant que j'entre au couvent, mais non, ces vertus-là, j'avais complètement oublié, jamais pensé. C'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup à l'humilité. Dès qu'on estime d'avoir une attitude religieuse, ah, l'humilité apparaît, la petite violette apparaît. La vertu de la pivoine, c'est quoi? Est-ce que la vertu de la pivoine est religieuse? C'est-à-dire la vertu de l'humilité, c'est la violette. Alors comme toujours, à côté d'une violette, il y a une pivoine, il y a une pivoine. Et à côté de la pivoine, il y a la violette. Être magnanime. La vertu de la grandeur d'âme. Elle est au niveau éthique humaine ou éthique religieuse? On va se demander, oui, je vous pose la question, on ne répond pas spontanément. Et moi non plus, je ne réponds pas spontanément, c'est assez délicat. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? La magnanimité. J'aime bien l'humilité, la magnanimité, vous savez, ça va ensemble, évidemment. Il faut être très humble pour être magnanime. Ordinairement. Ça, si l'humilité apparaît vraiment avec l'éthique religieuse, la magnanimité, il y a des chances qu'elle n'apparaisse qu'avec l'éthique religieuse. C'est autre chose que la générosité. Hein. La générosité n'est pas une vertu, c'est une question de tempérament. Il y a des gens très généreux qui ne sont pas du tout magnanimes. On verra ce que c'est. Alors, est-ce que vous voyez une autre vertu? Oui. Oui. J'y pensais. Je voulais que vous la nommiez, mais j'ai pensé, je crois que la virginité serait ici aussi. Je crois que ce sont les quatre vertus qui apparaissent à partir de la vertu de religion, à partir de l'adoration. Je crois. Oui. Vous en voyez d'autres? Là? La pauvreté, je la mettrais en éthique chrétienne. Quoi? Oui, oui, mais... On verra. Au sens tout à fait rigoureux, la pauvreté n'est pas une vertu. C'est un état qui, je crois, est lié à l'humilité et à la magnanimité. Oui, c'est un état, c'est pas une vertu au sens strict. Alors, évidemment, au niveau religieux, ça apparaît déjà à cause de l'humilité et la magnanimité. Alors, ça apparaît comme une manière d'être. Mais ce n'est pas une vertu au sens strict. Je crois que ce sont les quatre vertus qui apparaissent au niveau éthique religieuse. Alors, on va le voir, et puis on le critiquera pour voir si c'est vrai. Hein. Ici, ce n'est pas en mode d'inspiration que je vous dis ça. Et comme il n'y a pas beaucoup d'éthique religieuse, hein, je ne vous envoie pas dans tel livre, vous trouvez une éthique religieuse. Ou vous avez une éthique chrétienne, ou vous avez une éthique laïque. Et au fond, vous n'avez pas de développement d'éthique religieuse. C'est une chose qui manque au plan philosophique. Comme ça manque complètement l'éthique chrétienne. Et c'est important de développer ce point de vue de l'éthique religieuse, c'est-à-dire de développer ce que représente la dimension de l'homme comme homme en tant qu'il reconnaît la dépendance à l'égard d'un être premier. En tant qu'il a découvert par lui-même ou qu'il s'appuie sur les traditions religieuses, en considérant que ces traditions religieuses sont vénérables. Et donc, parce que ces traditions religieuses sont vénérables, on les respecte. Et à cause de cela, on a cette attitude de la prière, l'adoration. Et on a ces différents aspects. Alors, regardons l'obéissance. Je ne vais pas faire un traité sur l'obéissance. Mais simplement voir qu'est-ce que c'est que, à partir de ce que représente la personne finie, créée, l'homme en tant qu'il se considère comme créé, parce que c'est ça le support de toute l'éthique religieuse, hein, c'est l'homme qui se considère comme une créature. Donc, la personne finie relative à la personne infinie. L'obéissance, c'est une vertu. L'acte d'obéissance, hein, d'abord, puisque il faut d'abord regarder l'acte d'obéissance. Qu'est-ce que c'est qu'un acte d'obéissance? Un acte d'obéissance ne peut se comprendre qu'en fonction de l'autorité. Il n'y a pas d'acte d'obéissance en dehors de l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Oui. Je ne peux pas comprendre l'obéissance sans l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Et l'autorité, normalement, est plus intelligible que l'acte d'obéissance. Puisque l'acte d'obéissance est en référence avec l'autorité, ça, c'est important au point de vue analyse que nous faisons, hein, analyse philosophique. Vous voyez, l'homme obéissant est un homme relatif à un autre. Dès que je suis obéissant, je suis relatif à un autre. Quand on vous dit, qu'est-ce que vous faites? Ah, je dis. Qu'est-ce que vous fichez là? On m'a dit de me tenir là. Qu'est-ce qu'il vous a dit ça? Référence avec celui qui exercera l'autorité. C'est pour ça que l'obéissance est toujours un peu. Vous voyez a toujours un peu. Le celui qui obéit, il a toujours un peu l'air de gauche pour un autre qui regarde de l'extérieur. De l'intérieur, non, ça n'a pas d'importance, on sait très bien. Mais de l'extérieur. Il est relatif à un autre. Une personne se présente dans son autonomie. L'obéissance, un acte d'obéissance, c'est accepter la non-autonomie. C'est accepter la limite de l'autonomie. D'accepter la limite de l'autonomie. C'est pour ça que c'est si difficile d'avoir l'obéissance au niveau éthique. Parce que c'est une personne qui implique l'autonomie à l'égard d'une autre personne. Tandis qu'au contraire, dès que je suis en présence d'une personne qui accepte d'être créée, donc limitée, elle n'a pas une autonomie parfaite. Alors, pour qu'il puisse y avoir obéissance, la condition sine qua non, c'est d'accepter qu'on n'ait pas une autonomie parfaite, qu'on ait une autonomie limitée, une autonomie relative. Une autonomie limitée et une autonomie relative à l'égard d'une autorité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autorité? Là, nous tombons dans quelque chose qui est important. Est-ce que l'autorité n'apparaît qu'en politique? Ou est-ce que l'autorité apparaît en premier lieu en éthique religieuse? Je n'ai jamais pensé à ça. Je crois qu'il faut dire que l'autorité apparaît en premier lieu en éthique religieuse. Ça expliquerait des quantités de choses. Vous voyez, quand vous êtes dans une perspective du laïcat, il n'y a plus d'autorité. La grande crise qu'il y a eu à l'intérieur de l'Église, jusque dans la vie religieuse, dire l'autorité, mais non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, l'autorité. L'obéissance non plus. Avant Vatican II, l'autorité était fédérale. C'était la vie religieuse qui avait maintenu ça. Et alors c'était l'âge fédéral. L'autorité. Tandis qu'à partir de Vatican II, on a une autorité républicaine. N'est-ce pas ? Et l'autorité républicaine, ça consiste justement à faire qu'on obéit au bien commun. Et pas du tout à quelqu'un qui a l'autorité. On s'est rassemblés, on a dit qu'il fallait nécessairement que quelqu'un balaye. Alors il y a une balaye automatique, alors exact, il faut, parce que pour le bien commun, il faut que ce soit propre. Personne ne commande. Donc on supprime l'autorité. Il faut supprimer l'autorité. J'ai entendu ça. Je n'exagère pas, je dis exactement ça. Et alors, c'est très intéressant de comprendre ces réactions-là, parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est qu'il me semble qu'il faudrait creuser, et c'est ce qu'on fera, que l'autorité repose sur l'éthique religieuse. Le fondement de l'autorité, c'est l'éthique religieuse. C'est un fondement naturel, puisque l'éthique religieuse... Mais c'est l'éthique religieuse qui va fonder l'autorité. Et de l'éthique religieuse, on va retrouver... En second lieu, l'autorité politique. L'autorité politique n'est pas première du tout. Seconde l'autorité politique. Et la première chose, c'est le point de vue de l'éthique religieuse. Alors il faut essayer de voir comment l'acceptation de la limite dans mon autonomie va permettre l'exercice de l'autorité. Et comment l'éthique religieuse va me permettre de comprendre qu'il puisse y avoir quelqu'un, une personne humaine, qui exerce autorité sur une autre personne humaine. Vous avez dit...